Merci d'écouter InfoRC. Il est temps de retrouver des élèves du lycée Marcel Gimon d'Aubenas pour leur magazine.
Actu Terme.
Actu Terme.
Bienvenue dans l'émission Actu Terme, une émission des terminales en spécialité sciences économiques et sociales du lycée Marcel Gimon à Aubenas. L'objectif est de les préparer au grand oral. Chaque semaine, un élève doit présenter un sujet d'actualité dans le domaine économique, social ou politique. La présentation se fait devant la classe, sans notes, en minimum 3 minutes. Le but est double. D'une part, améliorer ses performances oratoires, sa diction, sa posture.
Actu Terme.
Olaf Scholz, ce mec, je crois qu'on l'oublie aussi vite qu'on le remarque. Cette phrase, ce tacle venu tout droit des tweets d'Elon Musk, transpose un message clair, qu'il se place bien au-delà des politiques traditionnelles. Mais alors, qui est vraiment Elon Musk? C'est un entrepreneur sud-africain, implanté aux États-Unis, partout dans le monde. C'est un économiste improvisé à ses heures perdues, devenu politicien informel. Mais alors, qui est-il vraiment, ce mec qui tweete bien plus qu'un adolescent en crise d'adolescence? Et bien ça, c'est vraiment la question qu'on va se poser aujourd'hui. Puisque c'est quelqu'un qui rétablit les règles, qui déforme les règles et qui veut imposer sa manière de voir à travers la planète entière, l'économie, la politique et divers endroits de la société. Et on le voit partout. Il est médiatisé, il veut coloniser Mars, il met des voitures électriques sur les routes jusque dans le désert. Il a récemment acheté Twitter, devenu X en octobre 2022. C'est quelqu'un qui se place totalement en dehors des normes. En dehors des normes sur tout point de la vie et notamment sur la norme du politicien traditionnel. Et ce phénomène est d'autant plus d'actualité et d'autant plus pertinent aujourd'hui puisque ce 20 janvier 2025 a été réinvesti Donald Trump en tant que 47e président des États-Unis. Et cela pose un enjeu majeur, puisqu'en ce moment, Musk et Trump, c'est un peu le duo de choc. Les deux personnes les plus médiatisées au monde sur ces deux dernières semaines. Et cela pose des inquiétudes, puisqu'on a confié une tâche informelle à Elon Musk en tant que conseiller à l'efficacité de l'administration Trump. Et ces derniers temps, on conçoit certaines inquiétudes, notamment le fait que la frontière entre économie et politique va devenir de plus en plus floue, dans un monde où ces deux points sont majeurs dans nos sociétés et dans nos institutions. Et de plus, ils partagent des valeurs communes, celles d'être un peu hors système, des personnes qui se placent au-delà des tendances. Ce sont des faiseurs de tendances d'ailleurs, des faiseurs de tendances, des influenceurs, des personnes dont l'une des deux n'a jamais été élue, hein, mais qui pour autant, on pourrait l'assimiler à un dirigeant. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment nous demander qui dirige vraiment. Qui dirige vraiment entre un Elon Musk omniprésent et un Trump réélu. Et pour cela, nous aborderons divers points. Et premier point de vue, l'ascension politique d'Elon Musk. Comment il est arrivé à cette position, par quels moyens. Puis nous verrons par la suite les conséquences de cette nouvelle position, les conséquences de cette position politique, sans aucune carrière. Et puis nous finirons par un point qui n'est pas forcément abordé par tous et connu de tous. C'est l'impact et la future relation qu'entretiendront Musk et l'Europe, et sur nous en tant que citoyens et sur nos institutions. Donc premièrement, Musk, à travers son ascension, est passé d'une figure d'entrepreneur à celle d'une figure mondiale. Et comment? Faut savoir qu'il n'est pas né d'hier, Elon Musk. En 1995, il a créé l'entreprise de logiciels Zip2, qu'il a revendu 2 ans plus tard pour environ 300 millions d'euros, et c'est vraiment avec aussi l'entreprise PayPal qu'il va créer. C'est lui qui est à l'origine de cette marque, de cette entreprise qui a révolutionné les paiements en ligne, et qui va revendre pour 1,5 milliard de dollars à eBay. Et c'est à partir de ce moment-là, donc en 2002, qu'Elon Musk va rentrer dans le cercle des milliardaires. On va lui coller l'étiquette un peu du savant fou en quête de l'impossible. Et cette carrière, assez extravagante, assez outrageante, va commencer dès le début du 21e siècle. Mais alors, cette méthode, la méthode Musk, comme nous pourrions l'appeler, comment elle se caractérise? À partir d'un usage du capital risque, des technologies de rupture comme Tesla, qui a souvent été sujet à du scepticisme, mais qui est en réalité maintenant leader sur le marché de l'automobile. Donc il a vraiment un usage sur le point de vue entrepreneurial qui est totalement anodin. S'ajoute à cela de fortes polémiques, une médiatisation, il est dans l'actualité pour des faits maintenant totalement divers, c'est plus simplement du business, mais pour tout. Et cette audace, cette autopromotion qu'il fait de lui, elles vont passer par divers points et nous allons l'aborder maintenant, notamment avec le rachat de X, le rachat de Twitter. Et ce rachat a été le tournant des élections américaines. Pourquoi? Puisque à partir de ce réseau social, il a réussi à le politiser, à l'instrumentaliser comme une forme de pouvoir, un moyen, à travers lesquels il a modifié totalement la gestion qu'avaient avant les propriétaires de Twitter. Il a diminué les régulateurs, les modérateurs, donnant lieu à des sujets polémiques beaucoup plus divers et à une politisation vraiment de ce réseau social. Les interactions ont augmenté. À travers les recherches de nombreux utilisateurs, de nombreux contenus toxiques, polémiques ou politisés sont inclus. Donc déjà, lui, l'interaction, bah, ça lui fait du bénéfice économique, hein, clairement, pour l'entreprise. Mais aussi, ça lui donne moyen de divulguer et de remanier cette application à travers sa vision des choses, sa vision du pouvoir et sa vision de la société. Et ce rachat, qui a été donc fait, je le rappelle, en octobre 2022, a totalement révolutionné en fait, le point de vue politique, et notamment américaine, puisqu'il a modifié l'opinion publique. Il a notamment réinvesti de nombreuses personnalités comme Donald Trump ou Alex Jones, qui avaient été bannis par les anciens gestionnaires. Et Donald Trump s'était notamment sujet à la prise du Capitole, qu'il avait incité en 2021. Et donc, cet instrument de pouvoir qu'il a racheté, dont il en est propriétaire, eh ben en fait, elle ne s'arrête pas qu'à sa manière dont il le gère en tant que PDG, mais aussi en tant qu'utilisateur. Puisque Elon Musk, en réalité, c'est quelqu'un qui a misé, on va dire, sa carrière sur son point de vue personnel et sur les attaques qu'il peut faire. En effet, sa stratégie de communication, c'est le point majeur de ce qu'il est. Il a, durant, on va dire, sur les deux dernières années, tweeté plus de 100 tweets sur un mois, des tweets qui étaient plus que polémiques, puisqu'il a attaqué des personnalités comme le Premier ministre britannique, ou même de nombreux leaders européens, des politiques américains plus démocrates, et de façon totalement arbitraire, sur des points absolument pas éthiques et politiques. Non, non, c'était des choses totalement personnelles, parfois racistes, parfois physiques. Et ces attaques personnelles marquent le cœur de sa pensée et de sa manière d'agir à travers des attaques qui n'ont pas forcément lieu d'être. Et ça crée du contenu viral. Ça a un impact total, puisque c'est pas forcément en adéquation avec les valeurs que peuvent prôner la démocratie et celle du politique en fait traditionnel, qui est plutôt dans les convenances, dans une organisation qui est en général réglée. Et donc cette stratégie d'ascension qu'il va créer va lui donner en fait une force de domination sur la politique, sur la scène internationale, et c'est arrivé jusqu'à la nomination de Donald, enfin l'élection de Donald Trump et la nomination d'Elon Musk à ce poste. Et maintenant nous allons voir les conséquences en fait de cette nomination et de ce poste. Puisqu'en réalité, Elon Musk, ce qu'il promulgue, c'est quoi ? C'est une idéologie libertarienne, donc c'est-à-dire une idéologie qui prône une liberté totale, une liberté d'expression, d'agir, d'entreprendre, sans toute frontière, aucune intervention de l'État. Donc c'est quelque chose qui s'abstient de toute intervention et de toute institution. Et pourquoi c'est un danger pour la société et pour notamment la société américaine ? Bah parce que cette idéologie va forcément, en quelque sorte, à l'encontre des valeurs démocratiques. Elle fragilise les institutions, la cohésion sociale, crée de la division. Et cette nouvelle idéologie va forcément aussi servir ses intérêts personnels, puisque Elon Musk, rappelons-le, possède de nombreuses entreprises, entre Tesla, Twitter, SpaceX dans l'aérospatiale. Et ces nombreuses entreprises sont maintenant des entreprises cotées, avec une plus-value énorme. Et nous pouvons prendre l'exemple de SpaceX, par exemple, dans l'aérospatiale, qui, sur les 5 dernières années, a beaucoup collaboré avec la NASA, une institution qui est publique américaine. Et ces relations, du coup, ont valu à Trump d'avoir une ascension politique et des relations diplomatiques avec les États-Unis, une position accrue. Il va notamment aussi, de par sa nouvelle position, forcément jouer sur les interventions publiques, les subventions, qu'il va forcément orienter vers lui, son domaine, là où il est actif. Et donc, ces entreprises et maintenant sa nouvelle position vont forcément être étroitement liées sur les prochaines années. Et la frontière entre le privé et le public va surtout rester incertaine. Et donc par la suite, l'amplification en fait de cette idéologie libertarienne, elle est surtout à jour avec cette nouvelle position du fait qu'il a avancé les projets qu'il voulait mettre à jour. Il les a avancés. Et lui, pour lui, ce serait par exemple supprimer le ministère de l'Éducation, de la Santé, couper de nombreuses subventions, surtout adressées au planning familial, à toute association et institution, organisation liée aux minorités, au genre. Et donc cette nouvelle position au service de cette idéologie, forcément, va poser des problèmes sur le futur des institutions, la stabilité politique et économique des États-Unis. Et en plus, son caractère qu'il a à être plus que polémique, plus qu'être viral, va forcément aussi poser un problème. Il déclarait il y a 2 ans, la peur du Covid est stupide. Il a aussi déclaré que la censure était pire que les fake news. Et donc, son nouvel audimat qu'il a, qui s'élève en janvier 2025 à plus de 150 millions de followers sur Twitter, pose des questions, mais de réelles questions. Surtout qu'une enquête de Morning Consult en 2023 relevait que 80% des Américains de 18 à 34 ans le considéraient comme un visionnaire, quelqu'un qui pourrait reprendre la relève aux États-Unis et rendre le monde meilleur. Donc cette nouvelle position politique, économique, pose de réelles inquiétudes. Mais nous allons voir qu'il n'est pas simplement le roi du monde numériquement, il l'est aussi politiquement, et notamment en Europe. Et pourquoi c'est inquiétant? Puisque en Europe, je ne sais pas si vous en avez connaissance, mais nous sommes des maîtres en matière de régulation, des données, du numérique, des GAFAM. Et dans ce domaine-là, nous avons de nombreuses législations, comme le Digital Service Act, le Digital Market Act, le RGPD. Et Elon Musk, lui, est donc forcément un entrepreneur implanté en Europe et qui est très contestataire face à ces mesures. Puisque pour lui, c'est un obstacle à la liberté entrepreneuriale, à la possibilité des entreprises de se développer, sachant que les entreprises de réseaux sociaux, de services, ont une grande utilisation des données personnelles, et pour lui, la personnalisation des contenus, des comptes utilisateurs. Et donc, l'Europe, elle, met en place des législations pour accroître la transparence des entreprises, protection des données personnelles. Et donc, forcément, en Europe, s'installe une guerre des données entre des grands manias de la tech comme eux et forcément des dirigeants européens qui sont plus restreints sur cette utilisation des données. Et cette guerre des données, qui est un conflit stratégique majeur, ne s'arrête pas là, puisque Elon Musk, lui, est intervenu sur ces dernières années et surtout sur ces derniers mois sur la scène politique en Europe, en participant à la montée de l'extrême droite en Europe, hein, il y a encore quelques jours. Il était en visioconférence lors d'un meeting de l'AFD, qui est le parti populiste d'extrême droite allemand, et en vue des futures élections législatives qui seront fin février. Donc il est un acteur qui s'inclut sur un territoire qui n'est pas du tout le sien, qui est éloigné du sien, en tant que personne absolument pas politique, sans carrière, dans un cadre dont il n'est pas forcément légitime. Mais il s'obstroie des lois, il s'obstroie des règles, et il s'inclut tout de même, il marque sa présence et il essaie d'instrumentaliser et forcément de s'implanter dans cette politique européenne en vue d'y gagner des avantages. Donc cette montée de l'extrême droite, elle montre des dangers. Lesquels? Elle fragilise les institutions, elle fragmente l'individualisme, elle l'augmente. Et forcément, que ce soit aux États-Unis et même en Europe, puisqu'il va être un levier majeur pour ces élections, les populations vont être pour beaucoup marginalisées. Puisque des politiques comme celle-ci, libertariennes, imposent forcément une intervention de l'État minime, donc des populations précaires marginalisées. Et donc cette société qui se crée pose des problèmes en fait sur l'avenir politique que ne serait-ce que s'envisage en Amérique, mais en Europe. Donc il faut se demander maintenant, est-ce que Elon Musk est un ennemi ou un ami de l'Europe? Et c'est là le paradoxe. Puisqu'Elon Musk est un partenaire économique majeur de l'Europe, avec notamment une innovation sur les dernières années dans la matière automobile, où de nombreuses filières en Europe, comme Volkswagen ou Renault, essaient de s'adapter aux nouvelles normes écologiques et électriques. Donc il est un partenaire financier énorme pour l'Europe. Mais il y a une double réalité, puisqu'il est un acteur politique qui dérange, qui manque d'équilibre. Il y a encore quelques jours, la polémique a été créée, il faisait un salut nazi après l'investiture de Donald Trump, lors d'un meeting, un contenu viral qui a fait le tour du monde. Entre critique et acceptation, on se demande où est la réalité, où est la réalité des choses, où est-ce qu'Elon Musk se place, jusqu'où il ira. Et l'Europe, du coup, doit maintenir cet équilibre pour essayer de garder une certaine stabilité politique en vue des nombreux acteurs, puisqu'il ne sera sûrement pas le seul, à s'inclure ici dans la politique européenne. Mais alors finalement, que pourrions-nous dire? Elon Musk est surpuissant, ne l'est pas assez, ou le sera plus à l'avenir? Nous pouvons dire qu'aujourd'hui, il a une influence croissante. Sur le point de vue médiatique, qui est vraiment le cœur de sa stratégie, le cœur de sa position actuelle, nous pouvons dire qu'Elon Musk est la personne, une des personnes les plus influentes du monde, même plus que forcément beaucoup de dirigeants, comme Donald Trump. En réalité, pour le moment, Donald Trump détient le pouvoir réel, le pouvoir exécutif aux États-Unis. C'est lui qui met en place les politiques, un acteur majeur dans la politique mondiale. Mais c'est à se demander comment va évoluer cette situation, si Elon Musk ne va pas gravir les échelons, et forcément à un moment, cette influence va se transformer en pouvoir. Et ce travail nous amène aussi à en conclure sur un phénomène qui est arrivé il y a peu de temps, la question de TikTok aux États-Unis, sous peine d'être supprimée en relation avec la question chinoise, forcément. Et Elon Musk lui a été proposé par Donald Trump, ce 25 janvier 2025, de racheter TikTok, chose qui n'a pas été faite, mais c'est quelque chose dont on ne sait pas si cela arrivera un jour ou l'autre. Mais en tout cas, ça pose réellement les inquiétudes sur l'utilisation de ces nombreux réseaux sociaux, où la Terre entière y est présente, sur les médias, quant à la nouvelle stratégie politique, quant à la nouvelle société et sphère politique, si les deux vont un jour réussir à avoir une frontière claire et précise, ou si cela va être deux entités totalement floues.
ActuTerm.
Vous venez de suivre une préparation à l'épreuve orale du bac. Très prochainement, on retrouvera d'autres élèves sur l'antenne d'InfoRC.